les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Ce n'étaient pas ceux ou celles ou ceux qui avaient passé les épreuves du certificat d'études qui allaient, un beau jour ou un sombre jour, vérifier sur les listes leur réussite ou découvrir leur échec. C'étaient les parents. Et la réussite ou l'échec se lisait fort bien sur le visage des parents. Une réussite, la réussite de toute une classe, la gloire rejaillissait sur l'instituteur ou sur l'institutrice. Création de la République, ce certificat d'études? Non, une création de la monarchie de juillet. Pour lieu de mémoire, René Elkaïm Bollinger, le 5 septembre 1996, sur France Culture, ravivait de lointains souvenirs.
Lieu de mémoire. Le certificat d'études, première émission, par René Elkaïm Bollinger. Réalisation, Anne-Pascale Desvignes.
Votre candidat est en pleine forme.
C'est vrai, ça, Hippolyte.
Ah, mais vous en faites pas pour moi. Hein.
Vous avez repassé votre histoire et votre géographie.
Inutile, inutile. Vous allez voir.
Habillons-nous. On va y aller pour les résultats. Je sais qu'il ne sera pas reçu à son examen.
Maria, oh bah tu as des chances de la trouver à l'église. Je la connais. Elle où en est à son 14e siècle.
Saint-Nicolas, faites-qu'il ait son certificat d'études.
Le jour du certificat d'études, on était réveillés à 6 heures, et même à 5 heures, parce qu'il fallait aller à la messe. Avant, prier la Sainte Vierge pour qu'elle puisse nous aider à allumer le cierge, c'était très important. Et on avait les habits du dimanche pour aller au certificat d'études. C'est une prière que mes parents m'ont apprise et que je dis toujours, « Mon Dieu, vous m'avez fait passer une bonne nuit, faites-moi passer une bonne journée, et sans mal, sans danger, et surtout... faites que je réussisse au certificat d'études. »
En Martinique, c'était comme un peu partout en métropole. On faisait souvent une prière pour être reçu au certif. Le certificat d'études, aujourd'hui disparu, est une histoire. Une histoire qui est liée à celle de l'institution scolaire dans son ensemble. La période de gloire du certif est antérieure à la Seconde Guerre mondiale. C'est le diplôme auquel accède l'élite scolaire et sociale des couches dites populaires. Ne faites pas sans cesse miroiter le certificat d'études aux yeux fascinés de votre petit candidat. Vous pousseriez le petit campagnard à jeter un regard de dédain sur le foyer paternel, à quitter le village pour le bureau. Et s'il sombrait plus tard dans le naufrage des grandes luttes sociales, vous auriez certainement contribué à sa perte. C'est Claude Carpentier qui cite ce texte des archives de la Somme dans son histoire du certificat d'études. Donc, le certif, ce n'est pas toujours le lieu des nostalgies douces et niaises comme celle de Bourville dans le Trou Normand, mais le lieu des conflits et des luttes, de tendresse, de coups sur les doigts et de dignité arrachée. Avec d'étranges questions, une horrible grammaire et ce qu'on a appelé aussi le fétichisme de l'orthographe, des problèmes, du calcul mental, du Victor Hugo et de l'Anatole France. Et tout cela pour former ce héros de 12 ans, héros de la laïque ou de l'école chrétienne.
Michel Ragon, vous êtes là sur une photo en noir et blanc avec un costume très élégant.
C'était le jour du certificat d'études.
Oui, le jour du certificat d'études, c'était un grand jour. Hein. C'est un peu comme, il y avait deux jours au fond importants. Il y avait le jour de la première communion et puis il y avait le jour du certificat d'études. Il y avait quelques années d'écart entre les deux. Et effectivement, pour ce jour-là, ma mère m'avait acheté, qui avait bien peu d'argent, mais elle m'avait emmené, je me souviens, j'en vois très bien d'ailleurs, chez le marchand de confection qui s'appelait Conchon Quinette. Et elle m'avait acheté un costume de golf. C'est le costume de Tintin, d'ailleurs, tout à fait. Alors, on voit sur cette photo que je suis le seul, comme ça, aussi élégant, alors que je suis d'une famille extrêmement pauvre. Les autres aussi ont des cravates, en général, sauf deux qui n'en ont pas. Mais celui qui est le mieux habillé, également, mais qui lui est habillé avec un costume noir, une cravate noire, etc., c'était le meilleur de la classe, qui est devenu un paysan, un petit cultivateur, d'ailleurs. Mais c'était un type très fort, il connaissait tout par cœur.
Et au milieu, alors, c'est le maître.
Alors, au milieu, c'est le frère des écoles chrétiennes, qui est donc l'instituteur, qui est habillé, il est en civil. En tout cas, il n'avait pas le droit d'exercer en costume religieux, donc ils étaient habillés en noir, avec une cravate noire. Et ils avaient néanmoins un manteau qui se mettait sur le dos de temps en temps, et qui avait des manches vides, et c'est pour cela qu'on les appelait les frères à quatre bras.
Alors là, vous avez les deux mains qui tiennent votre col de veston. C'est une espèce de, comme ça, de détente, de satisfaction, non ?
Ça a l'air, là. J'ai l'air d'être assez content de moi. Après, évidemment, les années deviendront plus difficiles. Mais là, j'avais conquis déjà, évidemment, quelque chose d'important. C'était quelque chose de très important. Vous savez, aussi important que le bac aujourd'hui. Je veux dire, il y avait la même angoisse. Et la même angoisse chez les parents aussi, parce que c'était la porte pour aller travailler quelque part à des emplois, ce que ma mère appelait d'ailleurs des emplois aux mains blanches. Car c'était son rêve pour elle. Nous étions d'une famille de paysans. Bon, mon père était sous offre de la colonie, parce qu'il était le plus jeune et que donc il n'avait pas de terre. Et donc, l'aspiration de ma mère, c'était que je ne travaille pas dans le cambouis, que je ne sois pas un ouvrier trop sale, quoi. Donc, avoir le certificat d'études, ça permettait d'avoir des mains blanches.
Oui, c'est un rituel qui intéresse tout le monde, qui intéresse à la fois les instituteurs et les gens du village.
Antoine Prost.
Ça se passe au chef-lieu de canton et ça se passe en une journée. Il y a l'unité de temps et de lieu pour tout le canton. Donc, il y a le départ des candidats au certificat dans une... avant la guerre de 14, dans une voiture tirée par un cheval. Alors, ils sont tous chargés, l'instituteur les accompagne.
Donc la gloire du certificat, elle rejaillit sur l'instituteur.
Absolument, elle rejaillit sur l'instituteur par rapport aux parents, qui souvent d'ailleurs récompensent l'instituteur. On lui amène un poulet.
Tâche de revenir avec ton certificat d'études, mon petit.
Oui, mère.
Le matin du certificat, ma mère a fermé sa boutique pour pouvoir mieux m'encourager. Ça se passait à la communale, près de Saint-Germain-l'Auxerrois, dans le préau même. Elle me recommandait en route d'avoir bien confiance en moi-même. Le moment était solennel. Tout autour du palais royal, elle m'a fait réciter mes fables et la liste des départements. À 8h juste, devant la grille, nous étions là qu'on nous inscrive. Il y avait du soin dans les habits. Tous les mômes étaient décrottés, mais énervés au possible, les mères aussi. Il y a eu d'abord la dictée, ensuite les problèmes. C'était pas très difficile, je me souviens, il n'y avait qu'à copier. On faisait, nous, partie des refusés de l'automne de la session précédente. Pour presque tous, c'était tragique, qui voulait devenir apprenti. À l'oral, je suis tombé très bien sur un bonhomme tout corpulent qui avait des verrues plein son nez. Il portait une grande lavalière, un peu dans le genre de l'oncle Arthur, c'était pourtant pas un artiste. Pharmacien qu'il avait été, rue Gombou. Il m'a posé deux questions à propos des plantes. Ça, je savais pas du tout. Il s'est répondu à lui-même. J'étais bien confus. Alors, il m'a demandé la distance entre le soleil et la lune, et puis la terre, et l'autre côté. Je n'osais pas trop m'avancer. Il a fallu qu'il me repêche. Sur la question des saisons, je savais un petit peu mieux. J'ai marmonné des choses vagues. Ouais, il n'était pas exigeant. Il finissait tout à ma place. Alors il m'a posé la question sur ce que j'allais faire dans l'avenir si j'avais un certificat. Je vais entrer, que j'ai dit lâchement, dans le commerce. Mort à crédit, Céline.
Jean-François Chanet, le certificat d'études, le certif, le CEP, est-ce qu'on peut dire que cela a été un lieu de mémoire de l'enseignement laïque ?
Oui. Toutefois, la plupart des Français d'aujourd'hui s'imaginent que le certificat d'études est une création de la République, qu'il est donc attaché à ce qu'a été l'école républicaine. Il ne faut pas oublier quand même qu'il est en fait une création de la monarchie de Juillet, puisque c'est un arrêté de 1834, consécutif à la loi Guizot de 1833, qui était une loi qui imposait, en fait, qui était la première loi de scolarisation massive des petits Français, puisque c'est elle qui a fait obligation aux communes d'ouvrir une école. En 1834, un arrêté crée le certificat d'études comme une simple sanction de l'acquisition des connaissances élémentaires à l'école. Et il y a ensuite une circulaire de 1866 d'un autre grand ministre avant l'arrivée des républicains au pouvoir, qui est Victor Duruy, ministre à la fin du Second Empire, qui organise au niveau départemental le certificat d'études. Donc il y avait ces deux textes fondateurs que les républicains ont en quelque sorte parachevés, et cet achèvement prend place dans la loi 1882, la grande loi Ferry, la seconde grande loi Ferry, après la loi de 81 sur la gratuité, c'est celle sur l'obligation. Et à son article 6, la loi définit le certificat d'études tel qu'il va rester en place pratiquement jusqu'à son terme. Il sera réformé ensuite plusieurs fois, mais dans ses grandes lignes, le certificat d'études primaires est défini par la loi de 82 qui dit qu'il doit être présenté qu'il peut être présenté à partir de l'âge de 11 ans. Ça sera ensuite un point de discussion, parce que en 1910, par exemple, on considérera que l'une des raisons pour lesquelles les résultats obtenus ne sont pas tout à fait ce qu'on aurait pu souhaiter vient de l'immaturité d'un certain nombre de candidats ou de candidates, et on élèvera à 12 ans minimum, une loi de 1910 fixe à 12 ans minimum l'âge pour pouvoir se présenter au certificat d'études.
Et en ce qui concerne donc le fait qu'on ait fixé comme ça les matières du certificat d'études, ça répondait à quoi à ce moment-là ?
Eh bien, l'école, telle que la veut Ferry, elle doit enseigner à l'enfant ce que nul n'est censé ignorer. C'est un bagage, ou ce que Félix Pécaud, l'un des fondateurs de l'école républicaine aussi, appelait un viatique, que l'enfant doit emporter avec lui et qui doit lui faire de l'usage tout au long de sa vie. Ce viatique doit comporter donc un certain nombre de connaissances élémentaires dans toutes les disciplines qui sont supposées utiles à l'homme, la perspective est humaniste, mais aussi utiles aux citoyens, la perspective est civique. Il faut former de petits citoyens, d'où l'importance, pour ce qui concerne l'homme, de la valeur civilisatrice de l'école, de la morale. Et pour ce qui concerne le citoyen, eh bien, l'instruction civique à laquelle se rattache très strictement l'histoire et la géographie. Donc l'école doit civiliser, morale, lecture, apprendre à lire, sacralité du livre. On a des témoignages de ce que on combat non seulement les langues régionales, ça on le sait bien, mais même les accents. Il faut une diction, une lecture qui soit la plus proche possible d'une sorte d'idéal classique, même s'il est souvent fort éloigné et de la capacité des élèves et même de la capacité des maîtres, qui sont des enfants du peuple et qui, eux aussi, parlent avec un accent local, que les inspecteurs souvent déplorent.
Sujet de rédaction, la composition française au certificat d'études primaires. Votre papa a décidé de remettre ses terres à des métayers et de partir travailler à la ville. Il fait part de son projet à votre maman. Vous assistez à la discussion. Dites ce que vous entendez et les réflexions que cette décision vous inspire. Sujet. Le cochon s'est échappé. Il met toute la basse-cour en émoi. La poursuite est mouvementée. Enfin, on ramène le fugitif. Racontez. Sujet. Votre père voudrait un bon domestique. Il écrit à un de ses amis pour lui demander de lui en trouver un. Il précise les tâches dont le serviteur sera chargé, ainsi que les conditions de salaire, de nourriture, de logement, de loisirs. Faites la lettre. Sujet. En parcourant les petites annonces, vous relevez l'adresse d'un artisan qui demande un apprenti. Vous lui écrivez pour lui expliquer votre situation, vos aptitudes, et lui demandez les conditions dans lesquelles vous travaillerez.
Alors, d'abord, le certificat d'études, c'était l'accomplissement d'une vie.
Claude Duneton.
C'était l'accomplissement d'une jeune vie d'enfant, soit dans les campagnes, soit dans les villes d'artisans. Alors, dans les campagnes, c'était le bac, quoi, de maintenant. Il y avait une préparation spéciale, c'est-à-dire qu'à partir de Pâques, l'instituteur, ça se faisait un peu partout, l'instituteur gardait les candidats au certificat d'études, il les gardait le soir pendant une heure et demie de plus après la classe. C'est-à-dire que ça donnait énormément d'importance. D'abord, on était sélectionné. C'est pas tout le monde qui passait le certificat d'études, même ayant l'âge. L'instituteur choisissait les gens dont il pensait qu'ils étaient capables d'avoir une chance de l'avoir. Bon. C'était pas du tout un petit examen. Parce que dans les classes tout à fait populaires, c'était l'examen qui permettait la plupart du temps, de s'ouvrir, enfin d'avoir un espoir de vie, un espoir d'être fonctionnaire, c'est-à-dire qu'il fallait avoir le certificat d'études pour être cantonnier. Alors ça peut paraître futile, mais c'est pas futile du tout. Il fallait avoir le certificat d'études pour être facteur et facteur titularisé. Bon, dans ma classe d'âge, enfin de mon âge, j'ai un copain qui, effectivement, son père était facteur. Il n'a pas pu être facteur parce qu'il n'a pas passé le certificat d'études. Il a fait des remplacements, etc. Il n'a pas pu faire une carrière, quoi. Alors, c'était extrêmement important. Donc, l'instituteur préparait les candidats qu'il avait choisis. Nous, on était trois, je crois, simplement.
Et comment vous avez choisi ?
Trois ou quatre. Ah ben, choisi par rapport aux résultats, c'est-à-dire que ceux qui n'avaient vraiment aucune chance de passer le certificat d'études, qui faisaient 10 fautes à chaque dictée, etc., n'étaient pas présentés. Alors, ça consistait surtout à faire des dictées, des problèmes, d'ailleurs, la préparation. Ça consistait pas à réviser la géographie ou des choses comme ça. Non, c'était problème et dictée. On sortait de la classe à 4h30, et puis il y avait une petite récréation, je pense, d'un quart d'heure, pour le casse-croûte en tout cas. Et puis on devait recommencer à vers 5h moins le quart, jusqu'à 6h ou 6h30 même. L'instituteur avait le temps. C'était pas des heures supplémentaires, c'était pas payé. C'était l'instituteur, lui, c'était son métier, c'était son dévouement personnel.
Il s'appelait comment ?
L'instituteur, moi, s'appelait Bourguet, Monsieur Bourguet. Bon, ce qui prenait aussi de l'importance, c'est que c'est en général le mois de juin, les foins commençaient et les candidats étaient exemptés de travaux des champs, vous voyez, ou d'aller garder les vaches, etc. Donc, les gens étaient, nous, les candidats, nous étions extrêmement valorisés. Enfin, on était des candidats.
Oh, un cartable.
Oui. Et bien, un plumier.
Oh. Un, deux, trois crayons. Et ça, qu'est-ce que c'est ?
Une fine gomme.
Ah, pourvu que je fasse des fautes.
Pourquoi ?
Sans ça, à quoi que ça me servirait, moi, la gomme ? Hein ? Oui. Bon, on va ranger tout ça pour que... Bon. Je vais la mettre tout de suite.
Oui. Hein ? Ah bah, il va bien. Oui.
Ah oui, il va vous prendre bien.
89, la chèvre de Monsieur Seguin. Que commence Nicolas.
La chèvre de Monsieur Seguin, le vent fraîchit, la montagne de vin violet, c'était le soir. Déjà, dit la petite chèvre.
Continue, Albert.
Puis ce fut un hurlement dans la montagne.
Un hurlement, lâchez t'aspirer, mon petit bonhomme.
Un hurlement dans la montagne.
Bien.
Ouh, ouh, la chèvre pensa au loup et eut envie de revenir.
Et pourquoi le loup se pourléchait-il les babines ?
Et comment vous l'avez préparé ?
Eh bien, préparer le certificat d'études, bon, après une année, je dirais avec un instituteur assez sévère qui s'appelait Monsieur Mansfield. Et je crois que le jour du certificat d'études, nous étions bien surpris. puisque ce que nous avons appris au cours de l'année concernant la dictée déjà qu'on venait de sortir sur notre île, qui s'appelait Fort-de-France, je n'ai pas le texte, hélas. En science, nous nous sommes retrouvés dans la culture, bien entendu, de la banane qu'on n'avait pas étudiée. Mais étant fils d'agriculteur, je pouvais quand même travailler tranquillement.
Pierre-Louis Numa, vous avez passé le certificat d'études.
Dans les années 59-60.
Est-ce que vous vous êtes senti un héros?
Eh bien, à l'époque, un héros, non, mais avoir le certificat d'études, c'était un diplôme qui représentait quelque chose.
Merci, Joseph.
Moi, je dirais, contrairement à M. Numa, ce qui m'a le plus marqué, c'est surtout la rédaction. Parce que je suis d'une famille très nombreuse. Et mon père étant fonctionnaire, employé des PTT, donc il fallait, c'était pour lui que tous ses enfants aient le certificat d'études. C'était vraiment, j'ai envie de dire, l'apogée de la famille, que tous les enfants aient ce certificat d'études. On dit le certificat d'études en Martinique, mais pas le certif. Ici, on a tendance à dire, à simplifier les mots, mais là-bas, ce n'était pas recommandé pour les parents. On devait dire les mots comme il faut. On avait beaucoup de travail à faire, beaucoup, beaucoup de devoirs à faire, et nos parents et les grandes sœurs nous faisaient réciter les leçons.
Vous vous souvenez un peu de poèmes ou de choses que vous avez apprises à ce moment-là?
J'ai envie de dire que la chèvre de M. Seguin, c'est l'une. On l'avait non seulement en poésie, mais on nous la donnait aussi en dictée. Parce que dans cette dictée, il y avait des mots pièges.
Lecture, morale, écriture. Écriture qui doit être très soignée. Hein. Les pleins et les déliés, il faut passer de longues heures, et ça continuera même au-delà du certificat, à l'école normale encore. Les apprentis instituteurs passent de trop longues heures, à leur goût parfois, à écrire pour avoir cette écriture qui restera une distinction de métier, hein, l'écriture d'instituteur saluée par Jacques Mona Ozouf. Et puis, en ce qui concerne les connaissances utiles aux citoyens, la géographie, même si on a déploré par la suite, et même très vite, sous l'influence des géographes savants comme Vidal de la Blache, que cette connaissance s'apparente trop à l'apprentissage par cœur d'une nomenclature, on considère que l'une des raisons pour lesquelles on a perdu la guerre 70, c'est notre méconnaissance de la géographie, comparée aux soldats prussiens qui, eux, pouvaient se repérer sur le terrain beaucoup plus facilement que les soldats français. Donc on fait un gros effort d'initiation à la géographie, mais cet effort a pour point d'aboutissement finalement au certificat, une interrogation sur les préfectures, les sous-préfectures, une sorte de litanie de préfectures et de sous-préfectures, ou de fleuves et d'affluents, c'était les deux grands domaines où l'on interrogeait les enfants. Et en histoire, eh bien, une série de dates qui sont supposées les dates fondamentales de l'histoire de France. Et bien entendu, une instruction strictement civique, qui rayonne et qui peut donner lieu à des questions ou à des textes de dictée ou à des sujets de rédaction. Il y a une communication entre toutes ces disciplines. On peut avoir un texte de dictée sur pourquoi Jeanne d'Arc est-elle une héroïne nationale ou un sujet de rédaction qui consistera à dire pourquoi Vercingétorix est l'inventeur du patriotisme français. Toutes ces matières forment un ensemble et peuvent donc s'entremêler dans les questions ou dans les sujets décrits du certificat.
Sujet. Votre maître vous a chargé de vendre des timbres pour la campagne antituberculeuse. Essayez de montrer votre tournée de façon vivante. Sujet. Vos parents vous ont promis, si vous êtes admis en fin d'année à l'examen du certificat d'études primaires, à votre choix, un voyage dans une région que vous désiriez connaître ou une bicyclette à votre usage. Choisissez et dites vos raisons. Sujet. Votre grand-mère, qui vivait seule, doit venir prochainement s'installer chez vous. Vous lui écrivez pour lui dire qu'on l'attend et ce que chacun fera pour lui rendre aussi heureuse que possible sa nouvelle existence.
Alors, ce viatique, qu'est le certificat d'études, c'est un examen, c'est un diplôme. Et pourquoi un diplôme? À quoi ça sert?
Au départ, donc, suivant l'arrêté du 134, c'est un simple enregistrement la reconnaissance du fait que l'enfant, en sortant, l'enfant qui est à l'époque un garçon, la scolarisation des filles accuse un retard considérable encore pendant toute la première moitié du XIXe siècle sur la scolarisation des garçons. Donc ce jeune garçon qui sort de l'école doit posséder un bagage minimum dont le certificat d'études représente la reconnaissance. Mais ça n'est pas un examen, ça n'est pas a fortiori un examen national défini par une loi générale. Avec Duruy, l'examen est départementalisé, mais il n'a pas encore sa forme définitive. Et ce sont les Républicains qui lui donnent sa forme définitive nationale, avec un jury qui est départemental et cantonal. C'est sous l'autorité du recteur, des inspecteurs d'académie et des inspecteurs primaires qui sont ex-qualité président des commissions d'examen. Donc vous voyez une structure qui reproduit la hiérarchie de l'édifice scolaire tout entier, une loi nationale qui définit l'examen et une ramification de cet examen jusqu'au chef-lieu de canton ou à la commune principale, si elle peut permettre dans des cantons très peuplés de faire venir les enfants de moins loin. Ce souci de proximité qui est, sur lequel il faut, je crois, toujours insister lorsqu'on parle de l'école républicaine. La communale, ce qualificatif qui lui est resté, eh bien, il vient du fait qu'effectivement, cette école primaire, elle est communale depuis la loi Guizot. La loi Guizot fait obligation aux communes d'ouvrir une école. Duruy, plus tard, fera obligation aux communes de plus de 500 habitants, en 1867 seulement, d'ouvrir des écoles de filles, ce qui n'était pas encore obligatoire. Et Ferry, bien entendu, c'est l'obligation pour toutes les communes d'avoir toutes les écoles, des écoles, comme on disait à l'époque, spéciales aux garçons ou spéciales aux filles, puisque la mixité ou la gémination, comme on dira, viendra beaucoup plus tard, à la fin des années 20 et au début des années 30. Donc, ce souci de proximité, qui débouchera d'ailleurs peu à peu, surtout après la guerre de 14, mais déjà un peu avant, grâce à quelques personnalités, sur un souci d'adaptation des sujets au milieu local. Ça, c'est encore un deuxième effet. Parce que longtemps, dans les premières décennies, disons, des décennies 80-90, 1900, les sujets se caractérisent trop, aux yeux de certains critiques du fonctionnement de l'institution scolaire, par une généralité moralisatrice, comme on le disait tout à l'heure, ou militariste. Beaucoup de sujets revanchards, patriotiques. Et ça, évidemment, ça atteint son point culminant. Cette tendance-là atteint son point culminant pendant la guerre de 14. On a beaucoup de sujets de réaction ou de dictée qui participent de ce que l'historien Stéphane Audouin-Rousseau a qualifié de préparation d'un enfant héroïque, qui doit reproduire à sa manière humble d'enfant le comportement héroïque du soldat. Eh bien, tout cela aboutit évidemment, après 1918, à une critique très sévère de ce patriotisme belliqueux, exterminateur d'avant 14. Et pour l'aile la plus militante, la plus à gauche du mouvement syndical qui est en train de s'organiser parmi les instituteurs, ça aboutit même à partir de 1920 à une campagne contre ce qu'ils appellent les manuels chauvins. Donc vous voyez que les sujets de ce type sont combattus. Et le souci inverse, celui de l'adaptation locale, se développe. Et on voit certains inspecteurs, dans un peu tous les départements, donner des sujets de dictée, des textes de dictée, des sujets de rédaction, où on demande de décrire un paysage familier, de faire une lettre pour défendre l'image de la région lorsque celle-ci est un peu décriée. On peut trouver, par exemple, dans le département du Nord, des sujets demandant de répondre à un parent méridional qui est habitué à ce qu'on dise du bien de sa région, pourquoi la Flandre, elle aussi, mérite d'être louée, etc.
Alors, l'instituteur, vous n'avez pas idée du forçage auquel ils se livraient pour faire recevoir leur poulain au certificat d'études, deux dictées par jour, ils les chauffaient à blanc. Donc, ce qui pose d'ailleurs des petits problèmes, parce que quand on essaye de comparer, comme Claude Tellot et la direction d'évaluation et de la prospective l'a fait récemment, les résultats du certificat d'études de 1925 et les résultats qu'auraient des élèves aujourd'hui à des examens comparables, on ne peut pas refaire aujourd'hui l'espèce de forçage qu'on faisait en 1925 à la veille du certificat. Pour un instituteur, faire partie du jury, c'est une faire partie du jury du certificat, c'est pas une faveur, c'est une reconnaissance symbolique très forte. Un inspecteur primaire qui n'aime pas un instituteur ne lui demande pas de faire partie du jury du certificat. Donc l'instituteur, membre du jury, bombe le torse.
Alors il y a une autre matière, bon, c'est la rédaction qui est souvent redoutée, dit-on. Et alors, je trouve ce commentaire assez étonnant, finalement. Par exemple, ce sujet étant donné, quel est le ruisseau de votre commune ou des environs que vous connaissez le mieux? Décrivez son cours, ses bords, sa vallée. Dites les poissons qu'on y pêche, les services qu'il rend, irrigation, moulin. La commission s'attendait à trouver quelques bons devoirs dans lesquels les enfants décriraient, tels qu'ils l'ont vu, le ruisseau qu'ils traversent tous les jours pour venir en classe et sur les bords duquel ils gardent souvent les bestiaux. Ce fut une déception. La plupart des candidats avaient cherché à nous servir une description à la Florian ou à la George Sand. C'était toujours un joli ruisseau dans une jolie vallée bordée de jolies prairies. Et l'on était si soucieux de dire vrai qu'on nous cita parmi les jolis poissons qu'on pêche dans la Tarde des harengs et des morues.
C'est très drôle votre texte, parce que premièrement c'est une vision de la campagne par les gens des villes. On ne fait pas paître son troupeau au bord du ruisseau, parce que ou bien le bord du ruisseau il y a des roseaux et des quantités de cochonneries qui sont pas bonnes pour les vaches et qui compromettent la digestion. Ou bien le bord du ruisseau est en pente et le risque que la vache tombe dans le ruisseau et qu'on puisse plus aller la rechercher est dangereux. Donc l'idée, c'est l'inspecteur d'académie est lui-même dans une image d'Épinal en s'imaginant des petits paysans qui gardent des vaches au bord du ruisseau. En outre, ceux qui gardent les vaches, sauf pendant les vacances, c'est les vieux et les très jeunes. C'est les bras inutiles. Les jeunes qui sont en âge de passer le certificat d'études, ils sont déjà suffisamment costauds pour sortir le fumier de l'étable, et on les occupe plutôt à ce genre de tâches qu'à garder les vaches. Bon, bah, admettons qu'ils gardent. Alors, il y a une deuxième illusion. On veut développer les qualités d'observation. On veut que les élèves décrivent le paysage qu'ils connaissent. Bon, c'est l'objectif. Pour atteindre cet objectif, il faut des moyens. Les moyens, on va leur faire décrire des paysages. Comment est-ce qu'on va faire pour enrichir leur vocabulaire? Parce que pour le décrire bien, il va falloir qu'ils distinguent entre une falaise, un coteau, etc. On va leur montrer des récits, des descriptions de paysages par des écrivains, grands, moyens ou petits. Et on va créer une convention. C'est-à-dire que l'exercice pédagogique suscite inévitablement la convention, parce qu'il passe par le relais d'exercice. Donc la rédaction, c'est aussi un exercice de beau langage, de langage convenu, parce que c'est un exercice de maniement d'une langue qui, pour les élèves, est une langue étrangère. Ce n'est pas la langue de leur quotidien, ça n'est pas la langue de leur travail, ça n'est pas la langue de leur famille. Donc, on met dans leur musette des beaux mots, des mots nouveaux. Oui, mais évidemment, comme ils ne les utilisent que pour le certificat d'études ou pour les rédactions scolaires, ils les utilisent de manière qui fait rire ceux qui les utilisent tous les jours. Un français un peu naïf et émouvant de l'école primaire, où on ne dit pas la mère, où on dit la grande bleue, où on ne dit pas les enfants, mais les chères têtes blondes, mais vous en trouveriez aussi dans le journalisme. Ce serait très intéressant de faire une analyse comparée de cette sorte de langue convenue. Les conventions linguistiques de la rédaction de certificats d'études et les conventions linguistiques du reportage de Tour de France. C'est de même nature.
Alors la lecture, moi je lis là, justement, toujours dans ce rapport. Voilà une épreuve pour laquelle il semble que tous les candidats devraient avoir une note au moins passable. Il n'en est cependant pas ainsi pour beaucoup. La lecture est très souvent défectueuse. Nombre de maîtres ont depuis si longtemps dans l'oreille l'intonation d'une mauvaise lecture. Ils ne sont plus choqués de ses défauts. Beaucoup d'enfants ont de graves défauts de prononciation, ils serrent les dents, articulent mal, de là une lecture peu nette.
Ce qui est important pour la lecture à cette époque, comme d'ailleurs pour la lecture aujourd'hui, c'est l'utilité sociale de la lecture. Les gens aiment faire en classe des choses qui leur servent. Alors le garçon ou la fille qui, en revenant de l'école, est capable de lire la lettre du grand frère à la grand-mère qui, elle, ne sait pas lire, elle a une fierté, elle a vraiment le sentiment de son utilité sociale. Et à cette époque, on communique par lettres. Bon, mais et alors la culture du primaire est une culture, comment dirais-je, c'est une culture peignée, c'est une culture toilettée, c'est une culture qui a visé à éradiquer la superstition, l'ignorance, les usages, l'alcoolisme. C'est une culture qui se constitue un peu contre la culture populaire, et c'est aussi alors là qu'on retrouve une signification du certificat d'études. L'école laïque avait besoin de rituels festifs pour combattre avec une certaine efficacité d'autres rituels festifs, soit les rituels de l'Église catholique, soit les rituels, j'allais dire, de la superstition populaire. Le certificat d'études est d'une certaine manière le saint patron de l'école laïque.
Les parents, le long de la muraille, ils surveillaient la procédure. Ils jetaient des regards vers leurs moutards, des coups de chasse carabinés, des ondes à leurs couplets à chic. Les gosses, ils se goraient tous les coups, ils se ratatinaient davantage. Le vieux, il était inlassable, il répondait pour tout le monde. C'était la session des crétins. Les mères s'empourpraient à mesure, elles menaçaient de mille raclées. Ça sentait le massacre dans la piaule. Enfin, tous les mômes y sont passés. Il restait plus que le palmarès. C'était le plus beau du miracle. Tout le monde était reçu finalement. L'inspecteur d'académie l'a proclamé sur l'estrade. Il avait un bide à chaîne et une grosse breloque qui sautillait entre chaque phrase. Il bafouillait un petit peu, il s'égourait dans tous les noms. Ça n'avait aucune importance. J'avais pissé dans mes culottes et recaqué énormément. J'avais du mal à me bouger. J'étais pas le seul. Tous les enfants allaient de travers. Mais ma mère a bien senti l'odeur en même temps qu'elle m'étreignait. J'étais tellement infectieux qu'il a fallu qu'on se dépêche. On n'a pas pu dire au revoir aux petits copains. Les études étaient terminées. Pour rentrer encore plus vite, on a pris un fiacre. Mort à crédit, Céline.
C'était la pédagogie de la calotte. C'était la manière dure. Bah, c'est-à-dire que le type qui se bourrait dans son problème, il lui, j'essaie de dire ça avec élégance, enfin, et de pas dire il lui claquait la gueule. Donc, il lui donnait des gifles. C'était très très musclé, hein, comme. C'était un enseignement très musclé.
Alors, le jour du certificat d'études, comment ça s'est passé le matin ?
Oui, bon, je n'ai pas le souvenir du matin, mais depuis deux jours, on nous avait lâché les baskets. Enfin, on était en repos pour affronter ce jour important et solennel. Mon certificat d'études était le 27 juin 1949. Dans ce canton de Messac, donc il faisait chaud, il faisait beau, les jours sont longs. On s'est retrouvés là, je me souviens très bien d'ailleurs l'appel, dans un silence tout à fait étonnant. Et puis voilà, donc, alors les parents étaient venus, alors traditionnellement, ce jour-là, on mangeait au restaurant. Je pense que c'est une des premières fois que j'ai mangé au restaurant. Alors, les parents se cotisaient pour offrir naturellement le repas à l'instituteur. C'était très ritualisé, tout ça. Bon, ça n'était ritualisé que depuis une cinquantaine d'années, mais ça l'était vraiment beaucoup. Donc, je revois très bien, je pourrais dessiner, si vous voulez, la table. la façon dont tous ces gens étaient placés. Hein. L'instituteur était à ma droite. Et alors là, il y a un événement un peu supplémentaire, parce que c'est la première fois où j'ai vu des artichauts. On nous a servi des artichauts en entrée. Et c'est l'instituteur qui, lui, avait vu des artichauts, savait comment se manger les artichauts, n'est-ce pas, d'enlever feuille à feuille, de tremper dans la vinaigrette. Et on a eu une démonstration de dégustation d'artichauts. Donc il y avait un côté un petit peu leçon supplémentaire, si vous voulez, leçon de choses. Et voilà comment j'ai rencontré les artichauts le jour de mon certificat d'études. Et je dois dire, je n'aime pas les artichauts. J'aime pas tellement les artichauts.
Qu'est-ce qu'aimer la France ? Vœu de Madame Dussault. Comme tu le vois, Gérard, dit M. Hector, après un court moment de silence, la Martinique n'est qu'un point imperceptible du globe. Aimons-la d'autant plus, mon fils, s'écria Madame Dussault. Oh oui, ma mère, s'exclama Gérard. Quant à moi, j'aime bien mon pays, et chaque fois que j'entends crier « Vive la France !», j'ai envie d'ajouter « Vive la Martinique !»
Je pense qu'on utilisait les livres de la métropole, mis à part ce fameux livre que je vous ai passé, qui est vieux, mais que je tiens beaucoup. Ce sont les vacances de Gérard à travers la Martinique.
Est-ce que vous pouvez lire juste le début de la table des matières ?
Une petite propriété bien travaillée, une bonne matinée à la régale, suite le caféier. Une bonne matinée à la régale, suite la maladie du caféier, les remèdes. Voilà. Il y avait aussi le livre de géographie sur la Martinique. C'était le livre de géographie sous la Martinique où on nous apprenait vraiment la géographie de la Martinique. Hein. Les mornes, les rivières, la montagne pelée, la végétation, les fougères. Et c'est comme ça qu'on a découvert un petit peu la géographie de notre île, mais sans l'approfondir. Hein, parce que c'était surtout ceux qui venaient de France qui étaient prioritaires. L'histoire de la Martinique ne nous était pas enseignée. On connaissait mieux l'histoire de la France et la géographie de la France que la géographie de la Martinique. Donc, nous, on se faisait plein d'images à travers ces textes. Et lorsqu'on est arrivé, toutes les images qu'on avait en tête se sont révélées tout à fait différentes.
Quels étaient les manuels de préparation au certificat d'études ?
Eh bien, il y a eu certains manuels qui ont une fortune particulièrement importante et qui ont formé des véritables ensembles, des collections. On a confié à tel ou tel auteur une série de manuels pour les différents niveaux. C'est le cas de Lavis, bien connu pour l'histoire, avec un manuel pour les cours élémentaires, un manuel pour les cours moyens et supérieurs. Ça a été le cas également pour le géographe Vidal de la Blache et son élève Camena d'Almeida, qui ont écrit ou fait écrire des manuels de géographie. Pour les manuels de lecture, l'un des plus connus, outre bien sûr le Tour de France par deux enfants, dès les premières années, réactualisé périodiquement et qui a connu une fortune immense, dans l'entre-deux-guerres, il y a eu le livre de Dumas, le livre unique de français, qui faisait également tous les cours.
Il y avait aussi des livres de lecture et de récitation et de poésie. Il y avait des auteurs peut-être particuliers à cette époque.
Alors, les deux auteurs qui viennent spontanément à l'esprit sont La Fontaine et Hugo. Les fables de La Fontaine ont été apprises vraiment par des dynasties de maîtres et d'enfants, d'innombrables élèves, et de même un certain nombre de poèmes de Victor Hugo, qui était demandé en récitation. On peut d'ailleurs s'interroger sur le volume de ce qui était demandé en récitation au certificat d'études. On connaît par exemple les exigences d'un inspecteur d'académie de l'Indre qui demandait que chaque candidat puisse réciter au moins 400 lignes, dont 300 de vers et 100 de prose. Et en ajoutant, c'est d'ailleurs là un minimum, et il sera tenu compte du surplus aux candidats qui pourront en réciter par cœur davantage. Reste à savoir si ces exigences étaient exactement respectées. Mais enfin, on peut être sûr qu'on leur demandait tout de même de se présenter avec une liste de textes assez volumineuse, où pouvaient figurer d'ailleurs aussi des textes jugés fondateurs de la République. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le serment de Ferry, le fameux discours de 70 où il fait serment de consacrer toute son énergie à l'instruction du peuple, et d'autres textes de ce genre. Il pouvait y avoir aussi bien de la prose que des vers, mais n'allons pas croire non plus que les grands auteurs étaient systématiquement préférés. Il y avait aussi beaucoup de poètes qui appartenaient à ce qu'un historien, Georges Duvaux, appelait la cohorte moralisante, qui allait de Victor de la Prade à François Coppée, en passant par Frédéric Bataille, poète franc-comtois, et bien d'autres. André Thériet, lui, est plutôt l'archétype de la littérature régionaliste, un peu fleur bleue, qui avait effectivement beaucoup de succès, et aussi dans les manuels. On pourrait presque dire que des records de densité de textes touchant à la vie à la campagne sont battus encore dans les années 60 ou 70. Où on commence par la chasse et les vendanges, pour finir par les moissons, et le cycle de l'année scolaire est un cycle des travaux à la campagne. Il y en a d'autres, il y a Erckmann et Chatrian, les Lorrains, il y a Anatole France, qui revient très très souvent, le texte bien connu où il décrit son souvenir d'enfance lorsqu'il traverse le jardin du Luxembourg, au temps où les premières feuilles tombent, où on allume la lampe le soir, ce texte a été dicté d'un point à l'autre du territoire pendant des années.
Et qu'est-ce que t'as à rire ?
Je pense à ce que j'ai répondu hier à Monsieur Pichet. Voilà Tipa qui me dit : un bac est troué, et par cette ouverture coule un litre d'eau par minute. Alors, étant donné le... Là, enfin, il me parle d'un tas de choses. Alors, qui me dit comme ça, qu'est-ce que tu fais comme opération ? Moi que je réponds. Ben, si le bac est troué, ben, je fais une soudure.
Qu'est-ce qu'ils attendent de ce diplôme, de ce certificat d'études ? Quelle est leur espérance ?
Eh bien, ils peuvent en attendre une ascension sociale qui, souvent, va se concrétiser par l'accès à un emploi public. On a beaucoup dit que... l'école primaire, c'était sa force et en même temps, d'une certaine manière, sa faiblesse, avait pour effet de recruter des fonctionnaires. Que la promotion sociale pour les enfants du peuple, c'était devenir fonctionnaire. Devenir en particulier instituteur, qui était une promotion particulièrement appréciée dans certaines familles. Mais cette association entre le succès au certificat et l'accès à un emploi public reste valable tout au long de la Troisième République et est encore confirmé par Jean Zay dans son projet de loi de 1937, puisqu'il rappelle que le diplôme du certificat sera exigé de tout candidat à un emploi public. Donc un petit fonctionnaire, ou un fonctionnaire plus important, mais en tout cas, pour accéder à la fonction publique, il faut le certificat. Et on a là, évidemment, une caractéristique typiquement française, hein, de notre système d'enseignement, de notre fonction publique, très importante et très valorisée par la République, et également critiquée. Ce qui est critiqué dans le certificat, c'est justement le fait qu'il peut créer chez les parents, comme chez les enfants, des espérances un peu démesurées. Et on voit se développer tout un discours ruraliste, dès l'avant-garde de 14, mais plus encore dans l'entre-deux-guerres. Mais enfin, dès le début du siècle, on voit certains journalistes ou certains polémistes catholiques en particulier reprocher au certificat ce que Barrès reprochait finalement à l'école primaire tout entière, c'est-à-dire de déraciner les enfants.
Alors justement, je lis dans l'ouvrage de Claude Carpentier, Histoire du certificat d'études primaires, ce qui est dit à propos justement de cette réussite. Enfin, on appelle ça des prolétaires intellectuels. Ainsi se constitue une masse d'intellectuels errant au gré des circonstances les plus diverses, prêts à abandonner toute spécialisation, et ainsi le fruit de tant d'années d'efforts, masse qui, en recevant sans cesse de nouvelles recrues, peut former un noyau de mécontents d'une influence particulièrement redoutable.
Oui, oui. C'est Thiers qui disait qu'on préparait dans les écoles normales 30 000 socialistes ou communistes qui allaient entretenir finalement des foyers révolutionnaires dans toutes les communes. Et c'est pourquoi on envisageait dès ce moment de rendre à l'Église, de rendre au clergé, à la fois l'encadrement de la jeunesse et la tutelle sur les instituteurs. Donc ce motif reste latent et il renaît à chaque période de conflit plus aigu entre l'État et l'Église sur la question de l'école.
Paris vous parle, Archivina 1950.
Les examens et concours auxquels peuvent se présenter nos enfants sont de plus en plus nombreux. Mais le plus populaire n'est-il pas le certificat d'études primaires élémentaires ? Il constitue, ne l'oublions pas, le niveau d'instruction officiel des deux tiers des Français, qui, par ailleurs, ne compte que 3% d'illettrés. Cette année encore, plus de 300 000 citadins et villageois de 14 ans environ s'y sont présentés. 8 sur 10 ont été reçus. Le chiffre de 300 000 peut étonner. N'était-il pas déjà dépassé depuis 1947 ? Et depuis 3 ans, la population scolaire de notre pays ne s'est-elle pas notablement accrue ? Enfin, le niveau des épreuves, sensiblement plus élevé que celui de l'ancien certificat d'études qui se passait à 12 ans, est tel que seuls les bons élèves peuvent aujourd'hui affronter l'examen avec chance de succès.
Et alors, passer le certificat d'études en 1936, c'est pas quelque chose d'un petit peu exceptionnel ? Est-ce que vous sentiez des choses comme ça autour de vous ?
Oui, c'est l'année du Front populaire. Et oui, c'était une année très agitée. Et effectivement, le problème de la laïcité avait certainement plus d'ampleur. Et là, je me souviens très bien, en 1936, je voyais sur les journaux des photos. Et je voyais les photos des gardes républicains qui chargeaient à cheval les manifestants. Donc il y avait une atmosphère de tension très très forte. Moi j'étais à l'école des frères des écoles chrétiennes en Vendée, à Fontenay-le-Comte. Et comme l'école était obligatoire jusqu'à 14 ans avant d'aller travailler quelque part, eh bien on restait encore 2 ans à ne pas faire grand-chose. Alors dans les écoles religieuses, on apprenait l'histoire de l'Église, par exemple. C'était l'école du Sacré-Cœur à Fontenay-le-Comte. Et nous allions passer, évidemment, on passait un certificat qui était le certificat libre. C'était donc déjà toute une expédition et presque dangereuse, car entre les enfants dans cette Vendée qui était très partagée encore entre bleu et blanc, c'était pas entre rouge, mais c'était entre bleu et blanc, eh bien, il y avait les enfants des écoles se bagarraient après l'école, en général. Il y avait des bandes de chaque école. La guerre des boutons continuait. Et donc, aller passer un examen à l'école laïque, où on n'avait jamais mis les pieds, c'était évidemment un événement. L'école laïque, en l'occurrence, s'appelait l'école des Cordeliers, puisque c'était dans un ancien couvent. D'ailleurs, nos instituteurs, nos frères instituteurs, nous mettaient en garde, nous disaient comment il fallait se comporter, etc.
Et alors, comment on dit ?
Fallait pas se bagarrer avec les autres élèves, d'abord, ce qui aurait été mal vu. Il fallait être bien poli avec les instituteurs de l'école laïque.
Mais on vous
avait
déjà dit que c'était quelque chose d'un peu... Enfin, c'était l'école du diable, comme on pouvait le dire en Bretagne, par exemple.
On disait pas que c'était l'école du diable, non. Mais je vais vous citer quand même une chose qui ressort de cela. Moi, j'étais un très bon élève. Donc, il y a deux voies. Il y a soit on devient prêtre quand on est à l'école des frères, et on a essayé que je devienne prêtre, que j'aille au petit séminaire, c'était la voie normale, ou bien on devient instituteur si on est à l'école laïque. Et lorsque, j'ai continué jusqu'à 14 ans, et là s'est posé le problème, qu'est-ce que l'on fait ? Comme j'étais un bon élève, ma mère est allée voir le curé de la paroisse et lui a dit, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je l'envoie au collège ? Car mon père était sous offre de la coloniale, j'étais pupille de la nation, j'aurais pu avoir d'ailleurs une bourse, j'aurais pu avoir des facilités. Et le curé de la paroisse lui a dit « Ah non, pas à l'école sans Dieu, qu'il travaille !» Et donc c'est comme ça qu'à 14 ans, j'ai commencé à travailler comme garçon de course.
Alors après la cérémonie, la récompense, est-ce qu'il y avait des récompenses collectives ? Il y avait celle des parents, bien sûr, mais il y avait aussi d'autres récompenses.
Il y avait d'autres récompenses destinées d'ailleurs à se substituer, lorsque c'était difficile, à celle des parents, qui n'avaient pas toujours des moyens qui leur permettaient d'offrir une belle récompense à l'enfant qui avait réussi. C'est pourquoi on voit des communes, des municipalités, des conseils municipaux favorables à l'instruction, relayer en quelque sorte les parents et ouvrir à l'enfant méritant, qui a obtenu un bon résultat au certificat, un livret de caisse d'épargne avec une somme minimum. On voit aussi des mécènes, en quelque sorte, des amis de l'école, les délégués cantonaux souvent, offrir des prix, des livres de prix. C'est le cas de Jules Renard et de sa famille dans la Nièvre, qui se montraient très généreux en ces occasions, même s'il était le premier à déplorer le choix des auteurs dans ces livres de prix. On l'a vu reprocher, par exemple, d'offrir des trop beaux livres que l'enfant montre et, sans les lire, et qui ressemblent, dit-il, à ces pains dont la croûte est trop cuite et la mie pas assez cuite.
Alors, les résultats du certificat d'études, ça se passait comment ?
Les résultats étaient affichés. Donc, c'était les parents qui allaient voir le résultat. Ce n'était pas nous, ce sont les parents qui allaient voir. Alors, tout dépendait du visage. Des parents, on savait si on avait réussi ou pas. Et bien souvent, ceux qui n'avaient pas le certificat d'études avaient droit à une correction parce qu'ils avaient mal travaillé l'année. Hein? Et lorsqu'on avait le certificat d'études, c'était la fête. Toute la famille le savait, tous les voisins, tout le monde savait, et on faisait la fête. Alors le rhum coulait à flot.
Flûte ! Oh, j'ai renvoyé la fanfare, qu'est-ce qu'on va faire ? Je vais essayer d'en trouver quelqu'un. C'est ça, oui, c'est ça.
Lieu de mémoire, le certificat d'études, première émission. Avec Murcy Joseph, Pierre-Louis Numa, Michel Ragon, Antoine Pro, Jean-François Chanet, Claude Dunton. Texte lu par Blandine Molinier, Daniel Tarard et Arnaud Philibert. Archivina 1950. Film Le Trou Normand de Jean Boyer 1952. Mixage Manuel Couturier, Pierre Mine. Réalisation Anne-Pascale Desvignes. C'était une émission de René Elkaïm Bollinger.
Ce premier volet d'un lieu de mémoire consacré au certificat d'études a été diffusé pour la première fois sur France Culture le 5 septembre 1996. À suivre, et d'ici là, à télécharger sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.
Notre école, un vieux professeur, souvent victime de sa bonne humeur, nous enseignait en récréation seulement un jeu qui le passionnait de son temps. À chaque phrase que disaient ses parents, il ajoutait par derrière ou par devant. Le brave homme ne se doutait pas qu'en nous enseignant ce jeu-là, il signait la condamnation de toutes ses prochaines leçons. Le nez de Cléopâtre eût été par derrière, la face du monde en eût été par devant. Henri IV avait panache blanc par derrière, Henri III n'avait pas sentiment par devant. Charlemagne portait barbe fleurie par derrière, caché ce sein que je ne saurais voir par devant. Démons déchaînés, nous étions tous par derrière, au visage pur d'enfant charmant par devant. S'en est allé le vieux professeur, près du bon Dieu et pourtant nos cœurs n'oublieront pas le petit avertissement de son jeu qui nous divertissait tant. Par devant, nombre de compliments deviennent par derrière propos désobligeants. Le brave homme ne se doutait pas qu'en nous enseignant ce jeu-là, il nous initiait tout petit à la dure école de la vie. Que de recommandations m'a-t-on fait par derrière, lorsque devait m'être présenté par devant. Des fripouilles, des brigands m'assurait-on par derrière, mais qu'amicalement on appelle vieux frère par devant. Les vieux frères en question m'avaient prévenu par derrière de me méfier de ceux qui me prévenaient par devant. Mieux vaut que la franchise reste par derrière, un brin de mensonge est plus utile par devant. L'amour est l'exception qui nous fait dire par derrière des choses aussi jolies que celles qu'on dit par devant. Des je t'aime, je t'adore pour la vie entière. Il y en a autant par derrière que par devant, car le brave Cupidon de sa flèche légendaire vise tous les cœurs de la terre, par derrière ou par devant.